Voix de l'Amérique. Bienvenue dans ce bulletin, je suis Nani Tetalani. Il est 13h à Washington, 20h à Bandar Bella et Zoudour en Somalie. Au Bénin, plusieurs villes ont été hier soir et ce matin le théâtre d'incidents et de saccages à quelques jours de la présidentielle que le chef de l'État, Patrice Talon, semble assuré de remporter. Des groupes allant de plusieurs dizaines à quelques centaines de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes du centre et du nord du pays, connus pour être favorables à l'opposition. Des véhicules du parti pro-Talon ont été saccagés. Ce matin, à Porto Novo, la capitale fédérale dans le sud du pays, des dizaines de partisans de Sébastien Adjavan, arrivés troisième à la dernière présidentielle en 2016 et vivant en exil, ont invité l'armée à prendre le pouvoir. Les États-Unis encouragent vivement les autorités maliennes à publier un calendrier définitif confirmant les dates du processus électoral et à utiliser pleinement les capacités de soutien électoral de la force de paix onusienne MINUSMA, a déclaré ce mardi son ambassadrice à l'ONU. Nous devons nous assurer que les élections libres et équitables se déroulent à temps, a insisté Linda Thomas-Greenfield lors d'une visioconférence du Conseil de sécurité consacré à la situation du Mali. Un important cortège d'étudiants, d'enseignants et de sympathisants a défilé ce mardi dans les rues d'Alger pour réclamer la libération de détenus d'opinion au lendemain du placement sous mandat de dépôt d'au moins 24 manifestants interpellés au cours du week-end lors d'une marche du mouvement pro-démocratie du Hirak en Algérie. La marche qui rassemble chaque mardi en majorité des étudiants s'est déroulée sans incident. Libérer les détenus ont scandé des manifestants dont les pancartes affichaient des portraits de prisonniers. 24 manifestants ont été écroués hier pour atteinte à l'unité nationale après avoir été interpellés lors d'une marche du Hirak samedi à Alger, selon le Comité national pour la libération des détenus. Au Soudan, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi qui vise à abroger le boycottage d'Israël en vigueur depuis 63 ans. Khartoum a accepté de normaliser ses relations diplomatiques avec l'État hébreu fin 2020. Le Conseil des ministres a également réaffirmé la position ferme du Soudan en faveur de la solution à deux États avec la création d'un État palestinien aux côtés de celui d'Israël. Toute personne violant ce boycott avant risquait jusqu'à 10 ans de prison. Plusieurs pays arabes, dont le Maroc, les Émirats arabes unis et Bahreïn, ont normalisé récemment leurs relations avec Israël sous l'égide de Washington. Cherchant à réintégrer le Soudan sur la scène internationale, le gouvernement de transition a également accepté de normaliser ses relations avec l'État hébreu, en échange notamment d'une levée des sanctions américaines contre Khartoum. Mais ces accords d'Abraham, signés en janvier par le Soudan et Israël, n'entreront en vigueur qu'après leur ratification par le Parlement soudanais, qui n'a toujours pas été constitué. Le chef du gouvernement italien Mario Draghi a rencontré ce mardi les autorités en Libye. Il s'agit d'un moment unique pour la Libye avec le nouveau gouvernement unifié chargé de la transition et l'occasion de reconstruire ce qui est une vieille amitié et une proximité qui n'a jamais connu de pause, a dit M. Draghi lors d'une conférence de presse aux côtés du nouveau Premier ministre libyen Abdelmabib Beba à Tripoli. Par ailleurs, les autorités libyennes ont annoncé la création d'une commission de réconciliation nationale chargée de rétablir la paix sociale dans ce pays déchiré par des guerres fratricides depuis 10 ans, une décision saluée ce mardi par l'ONU. L'Iran salue des déclarations de responsables aux États-Unis qui envisage une levée des sanctions liées au programme nucléaire iranien. Washington tient à partir d'aujourd'hui des discussions à Vienne pour tenter de sauver l'accord international sur le nucléaire iranien. Lundi, le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price a déclaré que Washington était prêt à examiner une levée des sanctions envers l'Iran, mais seulement celle liée à la question nucléaire. L'Union européenne et les États-Unis, encore partis à l'accord international sur le nucléaire iranien, l'Iran, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et l'Allemagne, se réunissent donc à Vienne pour préparer la réintégration des États-Unis. En sport, le ministère nord-coréen des sports a annoncé aujourd'hui que son pays ne prendrait pas part aux Jeux olympiques de Tokyo, prévus cet été afin de protéger les athlètes nord-coréens de la crise sanitaire du Covid. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Gabon, le secteur du tourisme, dont l'hôtellerie et la restauration, a été durement impacté par la pandémie de Covid-19 en 2020. Selon la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, le chiffre d'affaires consolidé du secteur a chuté de plus de 50%, passant de 17 milliards de francs CFA en 2019 à 8 milliards l'an dernier. La masse salariale et les effectifs ont diminué respectivement de 29 et 14% et le nombre de clients a chuté de 38%. La femme d'affaires Isabel dos Santos, fille de l'ex-président angolais, a transmis à la Haute Cour de justice de Londres des documents mettant en doute les révélations des Luanda Leaks. L'agence israélienne de renseignement privé Black Cube aurait des enregistrements de certains hauts responsables angolais qui pourraient prouver une éventuelle machination visant à s'emparer illégalement des actifs de la jeune milliardaire. Au Maroc, le sommet de l'africanité débuté hier se poursuit jusqu'à mercredi à Casablanca. Cette seconde édition sous le thème Made in Africa, parole aux femmes d'Afrique, a pour objectif de fédérer le leadership des femmes et des jeunes en Afrique en les accompagnant dans le financement de leurs projets.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur VOA Afrique.
Cool me down.
d'aujourd'hui, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'information.